Dialogue de France Culture. Producteur délégué Roger Pilaudin. Mohamed Harkoun et Pierre Emmanuel dialoguent sur le thème Les religions orientales et nous. Les religions orientales et nous, c'est-à-dire nous qui sommes en Occident. Mohamed Harkoun.
Il y a effectivement une très grande séparation que vit l'Occident depuis un certain temps, et depuis au moins le XVIe siècle, je crois, il faut le dire avec netteté. Et cette séparation, je voudrais en souligner l'importance, parce qu'elle s'est manifestée par une exclusion d'une religion, d'un monde que j'aime qualifier de gréco-sémitique. Je veux dire que l'islam a été exclu de la tradition occidentale, et ceci pose un problème extrêmement important, justement, pour une définition de ce rapport entre les religions orientales et nous. Car non seulement l'islam a été exclu de la tradition occidentale, mais je dirais beaucoup plus. Le christianisme lui-même, nous le savons, a éclaté en un christianisme oriental et un christianisme occidental. Et le christianisme occidental est un christianisme latin, gréco-latin, et c'est sur cette base d'une pensée gréco-latine que s'est développée, à mon avis, une religion que nous pouvons qualifier effectivement d'occidentale, beaucoup plus que d'oriental ou même de proche oriental. Il y a donc, à mon avis, tel que je vois les choses, un problème d'accès même au christianisme dans ses origines en Occident tel qu'il s'offre à nous et tel que nous le vivons aujourd'hui. Et s'il y a un problème d'accès même au christianisme qui est la religion de l'Occident, à plus forte raison, il y a un problème d'accès à l'islam qui fait partie intégrante de cet ensemble de religions du livre que nous aurons à évoquer, et quelles difficultés alors y aura-t-il pour accéder à ces religions alors de l'extrême-orient que nous pourrions évoquer.
Pierre-Emmanuel.
Vous avez tout à fait raison de dire en effet que d'une part l'islam a été isolé et séparé d'une certaine forme de civilisation et même de conscience religieuse, et que d'autre part la notion d'Occident chrétien a été trop longtemps très limitative dans l'esprit même des chrétiens. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. La vieille conception traditionnelle d'un catholicisme à la fois ethnocentriste et planétaire a volé en éclats dans les 30 dernières années. Et d'autre part, pour ce qui est du monde français, comme pour ce qui est de la religion chrétienne en général, il y a eu une telle transformation de civilisation qu'il est bien difficile aujourd'hui d'identifier le fait religieux comme on pouvait l'identifier il y a seulement 40 ans. Je crois que c'est très important de nous rendre compte de cette modification historique, car elle touche aussi à un nouvel aspect, peut-on dire, de la conscience religieuse en milieu traditionnellement chrétien. C'est l'irruption de l'athéisme de fait, qui n'a rien à faire avec l'athéisme spirituel qu'ont connu enfin des générations de penseurs, et qui est tout simplement une espèce d'agnosticisme bâtard. Au fond, l'indifférence profonde à toute question religieuse, comme si ça ne relevait pas de l'expérience humaine quotidienne.
C'est précisément là l'Occident, et qui occupe une si grande place, parce que cette forme d'esprit et ce détachement à l'égard de la chose religieuse, aujourd'hui, se manifeste non seulement en Occident, mais vous savez que l'Occident a exporté cet état d'esprit dans des pays qui, précisément jusqu'à présent, sont restés très attachés à leur tradition religieuse.
Donc l'islam.
Je pense essentiellement à cela, bien sûr, parce que c'est la partie que je connais le mieux, mais je crois qu'on peut dire cela aussi du monde asiatique, du monde bouddhique. Et il se pose là, par conséquent, le problème même aujourd'hui de la survie, à mon avis, je le sens comme cela, de la survie de la référence religieuse. Qu'en pensez-vous?
Absolument. Mais avant d'en parler, peut-être, souhaiterais-je que nous voyons d'un peu plus près ce que signifie cet athéisme pratique, sur lequel semble fondée une civilisation, ou en tout cas un courant à la fois de type sociologique et technologique, dont nous discernons mal quelle sera l'évolution. Pour le moment, semble-t-il, nous sommes soit dans une... Nous avons été, je préfère nous avons été plutôt que nous sommes, dans une euphorie du progrès technologique avancé qui nous a fait croire à un prométhéisme de l'immédiat sur lequel nous pouvions fonder notre conscience de l'homme futur, ou bien nous avons été, et ceci est plus vrai des civilisations et des peuples en voie de développement, c'est-à-dire en rupture par rapport à leur civilisation traditionnelle et qui sont encore très mal équilibrés par rapport à la civilisation nouvelle qui naît, ces pays-là sont dans un état éruptif, dans un état de conflit interne et externe, dans lequel ils arrivent mal à discerner quelles seront les prémices de leur futur. Et cela se traduit par une disparition souvent radicale de tout ce qui faisait leur référence profonde, leur moyen de s'identifier, une massification et une incapacité de découvrir quelle sera la forme de leur univers à venir, donc une certaine tendance à chercher des références de type politique, des références de type idéologique qui ne correspondent absolument pas à leur sensibilité et à leur conscience profonde et qui ajoutent encore davantage, semble-t-il, à cette disruption, à cet éclatement. Alors peut-être faudrait-il nous poser la question, comment se manifeste cet athéisme un peu partout ?
Eh bien, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a encore un mouvement athée dans le monde islamique. Le monde islamique est encore très attaché à sa tradition religieuse et ceci est tout à fait visible dans le spectacle même de la rue et le comportement des musulmans quotidien. Cependant, il y a, si vous voulez, sur le plan de la culture, une double rupture qui déjà est très avancée. Une rupture à l'égard du passé, où se sont édifiées les expressions les plus valables, les plus significatives de la tradition islamique, et une rupture à l'égard de cette modernité qui est subie et jamais acceptée, cette modernité matérielle qui est importée de l'extérieur pour eux, et ce que je dis pour le monde islamique, je crois que, d'ailleurs le monde islamique, nous savons qu'il s'étend des Philippines jusqu'au Maroc, par conséquent ça couvre aussi le monde asiatique assez largement, mais les religions asiatiques, à mon sens, subissent exactement la même évolution. Autrement dit, il y a un problème de rupture vis-à-vis de cette modernité, d'autant plus grave que l'Occident lui-même n'a pas sérieusement posé, à mon sens, le problème de la modernité. Il a créé une modernité matérielle, cette modernité faite de réussites techniques qui a permis un grand nombre de progrès techniques, une amélioration de notre vie, etc., une maîtrise de l'environnement, mais les problèmes posés pour l'homme dans l'utilisation de cette technique et dans l'accroissement de cette technique n'ont pas été sérieusement envisagé par une pensée, si vous voulez, oserais-je dire humaniste. Vous voyez à quel point un certain langage se trouve réprimé par notre manière d'être en Occident. Moi qui suis universitaire et qui vis en milieu étudiant, j'avoue que j'hésite à qualifier cette attitude qui pourtant est essentielle. Ce regard que l'homme a porté sur lui-même et sur sa condition, sur son destin, aujourd'hui nous n'osons même plus parler d'un certain humanisme. Par conséquent, il y a là un problème tout à fait grave, à mon sens, et qui nous interdit, je crois, de considérer les religions orientales et extrême-orientales, parce que je crois qu'il faut distinguer les deux, de considérer qu'elles peuvent redevenir facilement présentes, à la fois dans notre monde occidental tel qu'il est, et même dans leur lieu de naissance. Et je mesure l'ampleur des tâches qu'il faudrait accomplir pour essayer d'accéder aux vraies questions qui ont été posées dans l'expérience religieuse initiale qui a été vécue, par exemple, en ce qui concerne l'islam, par le prophète à Médine et à la Mecque. Parce qu'il y a un obscurcissement de la tradition au cours du développement de cette tradition. Et ceci est général pour toutes les traditions religieuses. Cet obscurcissement de la tradition est dû à son développement historique et à son utilisation historique à des fins non humaines, ou non humanistes, si vous voulez, et non religieuses dans le sens de la visée initiale de ce que nous nommons, par exemple, dans les religions du livre, la révélation. Et cet obscurcissement a été si grand que maintenant, cela constitue une sorte de rideau épais qui empêche d'accéder à cette interpellation de la révélation. Et on en est d'autant plus séparé, encore une fois, que la pensée moderne, telle que nous la pratiquons, est une pensée qui ne nous laisse pas le temps d'envisager ces problèmes comme ils l'ont été, c'est-à-dire avec cette sérénité, ce calme qui caractérisait l'homme de la réflexion avant l'avènement de la civilisation que nous vivons. Et vous qui êtes poète, j'aimerais justement que vous disiez quelque chose à cet égard. Est-ce que vous ne pensez pas que par le langage poétique, il serait possible de réintroduire cet accès à une expression symbolique qui nous donnerait à penser, qui nous donnerait à revenir à une forme d'interrogation, à une forme de rapport avec nous-mêmes, mais même le langage poétique, vous le savez, arrive mal à passer, aussi bien dans l'Occident que aussi dans les pays...
Pierre-Emmanuel,
je ne sais pas très bien ce qu'est l'homme aujourd'hui, le concept de l'homme. Je le savais quand j'étais situé dans une tradition chrétienne profonde, avec une théologie solide et avec une mystique aussi, qui se reliait à la mystique juive et à la mystique de l'islam. Cette tradition-là, je l'ai vécue, je la vis encore, c'était celle d'un homme entre sa naissance et sa mort et dans la perspective du salut. Cette réalité, nous la vivions, chaque homme la vivait personnellement. Même eut-il une existence très simple, il avait bien le sentiment d'un progrès, d'une unification, d'une recherche de la vérité, quelque chose qui était le contraire de la fragmentation, de la multiplicité dans laquelle vit l'homme moderne. Cette idée de l'unité est, je crois, essentielle à ces trois religions.
Absolument, fondamentale.
Elle est différente de l'idée que se fait l'hindou ou que se fait le bouddhiste de la vie humaine, dans la mesure où l'on peut parler de l'existence humaine en tant que telle. Il y a d'abord, dans ces religions, quelque chose de très étrange, de très paradoxal pour la pensée occidentale traditionnelle, la pensée religieuse des religions du livre, c'est qu'il n'y a pas une existence, mais il y en a une multiplicité indéfinie. Que, d'autre part, ces existences ne sont pas nécessairement toutes des existences à forme humaine, qu'il y a une espèce de progression à travers des cycles de naissance et de métamorphose, pourrait-on dire, grâce à laquelle l'être, enfin si l'on peut parler d'être aussi, car c'est toujours la même chose, nous trouvons dans des ambiguïtés assez redoutables, c'est pur de son action, du fruit de son action, pour arriver tantôt jusqu'à l'unité avec le Dieu suprême, le Brahman, dans les religions indiennes, tantôt à quelque chose qui est l'ineffable même, l'absolu indéfinissable, innommable, le nirvana. C'est-à-dire que, dans le premier cas, l'être, à travers ses diverses renaissances, vise bien à un seigneur unique, qui est le Dieu suprême. Dans le second cas, le bouddhisme, il ne vise rien qu'à l'extinction. Et l'identité de l'être, à travers ces métamorphoses, n'existe même pas. Donc on se trouve en présence de religions tout à fait différentes de la nôtre. D'une part, dans les religions indiennes, une série de naissances et de transformations, on ne peut même pas dire de morts, vers l'unification suprême avec le Dieu unique, mais le Dieu unique sans relation avec l'être, comme par exemple... Notre Dieu a une relation avec chacun de nous. Tantôt, comme les bouddhistes, alors, chaque être, il faudrait mettre ce mot entre guillemets, n'est qu'une succession de moments, et il n'y a plus comme réalité qui perdure, si l'on peut dire, que cette espèce de jeu des actions qui indéfiniment se multiplient et se démultiplient. Alors ce sont deux aspects vraiment de l'homme, en fait deux aspects de la réalité humaine qui sont complètement antithétiques. Et il me semble qu'aujourd'hui, mais là je peux me tromper, l'homme moderne, occidental ou pas, il est beaucoup plus près de l'être des bouddhistes ou de l'être des philosophies indiennes qu'il ne l'est de...
Avec cependant le détachement en moins.
Avec le détachement.
Mohamed Harkoun.
Oui, parce que l'occidental se définit par son réalisme et son attachement à la réalité et son immersion même dans la réalité qu'il veut dominer, alors que dans le cas de l'Inde, au contraire, c'est un détachement vis-à-vis de cette réalité. Je vous suis personnellement tout à fait dans cette évocation que vous faites de la spiritualité hindoue, par exemple. Mais là encore, je me fais l'avocat du public, si vous voulez, qui a beaucoup de difficultés à accéder aux significations que peuvent représenter ces expériences religieuses extrêmement anciennes et extrêmement éloignées de nous. Et personnellement, j'éprouve d'autant plus d'hésitation à les évoquer que, comme nous le savons, en Occident, il y a toute cette utilisation actuelle d'un Orient en refuge pour un Occident devenu trop oppresseur pour la personne, etc., d'un Orient en refuge vers quelque chose de différent, quelque chose que j'appelle rêveur, et qui, justement, est assez dangereux parce qu'il fausse fondamentalement les significations de ces religions telles qu'elles sont vécues et telles qu'elles se sont développées sur leur propre terrain. Et les sectes que nous connaissons et la multiplication des sectes que nous connaissons en Occident est un aspect de cet Orient que personnellement je voudrais dénoncer avec force, parce que je connais un certain nombre de manifestations en ce qui concerne l'islam et un certain nombre d'occidentaux qui croient pouvoir accéder à la mystique musulmane. Je puis vous assurer que c'est une caricature telle de la mystique telle qu'elle a été vécue et illustrée par des mystiques musulmans, qu'on ne peut pas ne pas faire un barrage à ces manifestations d'un soi-disant retour à une spiritualité orientale. Et là aussi, c'est un autre exemple que je donne, et j'y insiste, de la difficulté qu'il y a à accéder, encore une fois, au sujet dont nous parlons, c'est-à-dire aux multiples spiritualités qui se sont manifestées dans les diverses expériences religieuses. Je ne sais pas justement quel est le moyen aujourd'hui que nous pourrions utiliser dans notre activité culturelle pour essayer de réintroduire une sensibilité à ce qui est fondamental, à mon avis, dans l'expression religieuse, le symbole, l'expression symbolique dans le langage religieux, et aussi ce qui est essentiel dans l'expérience religieuse, à savoir l'expression de cette expérience par un culte.
Pierre-Emmanuel.
Oui, je voudrais y arriver aussi, mais avant d'y arriver, je voudrais passer un peu par un petit enfer.
Je tâcherai de vous suivre.
Ce que vous dites, disons, de la falsification ou de la dénaturation de la symbolique indienne ou de la tradition bouddhique, c'est évident. Nous faisons de l'Orient un très bon marché. De l'Orient avec des concepts occidentaux. Tout à l'heure, en essayant d'expliquer très mal ce que je voulais dire, j'étais obligé de traduire constamment dans des termes très approximatifs quelque chose qui se nomme tout de même dans les mondes que j'évoquais. Et le fait de ne pas pouvoir nommer cela, et déjà d'être obligé de traduire si peu que ce soit, introduit une différence et une incompréhension totale. Cela dit, ce qui m'apparaît évident, et nous laisserons, si vous voulez, les religions orientales dans leur spécificité pour un instant. Ce qui m'apparaît évident, c'est que l'homme moderne est beaucoup plus tenté aujourd'hui par le morcellement, la fragmentation, la multiplicité des existences fragmentaires à l'intérieur d'une même vie, c'est-à-dire par la multiplicité des moi temporaires, transitoires, apparaissant un peu au hasard de l'émotion, au hasard de la sensibilité, du plaisir, de la joie, de l'expérience instantanée. Il est beaucoup plus tenté, donc, par cette multiplicité de moi qui s'évanouissent au fur et à mesure qu'ils naissent, qui se retrouvent peut-être, mais qui n'ont pas de consistance propre, qu'il n'est tenté par l'unité. il se satisfait parfaitement de sa multiplicité. Il n'a, dans son idée du temps, par exemple, cette idée si précieuse autrefois de la durée humaine comme réalité qui se développait de la naissance à la mort et qui s'unifiait dans un grand processus d'orientation vers Dieu, ça n'existe plus du tout. Ça existe si peu que aujourd'hui, dès que l'on souffre, on veut évidemment immédiatement être soulagé. Et on n'imagine pas la souffrance comme un processus, peut-être même comme un processus de guérison. Je prends cela comme l'un des exemples possibles de cette peur que l'homme d'aujourd'hui a justement de s'identifier, de s'unifier dans un effort qui demande une peine, une discipline et aussi une expérience. Pour ce qui est de la mort, c'est encore bien plus évident. L'homme moderne veut camoufler sa mort jusqu'au le processus du mourir jusqu'au bout. Il ne veut pas mourir. Il veut s'évanouir, de même que chaque moment de son existence s'évanouit. Donc il y a vraiment là une cassure dans l'idée occidentale de la durée, c'est-à-dire dans l'idée de l'unité de l'homme, et qui est aussi une idée de l'unité de l'histoire, bien sûr, parce que toutes ces choses sont liées. Alors on se trouve tout de même devant quelque chose qui est en train de s'effondrer juste au-dessous de nous. L'homme occidental, dans sa texture, dans son historicité, dans sa conception personnelle et collective de l'existence et de la valeur, et c'était une réalité très forte et très grande, très unifiante aussi, mais qui était la réalité d'un individu qui n'a que l'espace entre sa naissance et sa mort, et qui doit l'utiliser très fortement afin de signifier aux yeux de Dieu ce que vaut cette existence. On se trouve dans une rupture, donc, entre cette idée de l'homme et quelque chose d'autre qui est assez indéfinissable et qui ressemble, de la manière la plus banalisante d'ailleurs, à ce qu'on peut lire de certains mondes indiens ou d'un certain bouddhisme.
Mohamed Harkoun.
Il ne faudrait peut-être pas en rester à ce constat négatif de ce qui se passe en Occident et essayer de voir ce qui, à mes yeux, est un aspect peut-être aussi positif de l'évolution de l'Occident et de ce que l'Occident manifeste aujourd'hui sous le rapport du sujet dont nous traitons. En effet, lorsque je considère les religions orientales et proche-orientales, elles me semblent présenter un certain nombre d'aspects négatifs dans la mesure où elles n'ont pas eu, au même degré que l'Occident, ce cheminement vers la rationalité qui est une valeur positive aussi. Elle n'est pas uniquement une valeur négative. Alors il y a une sorte de mariage, si vous voulez, qu'il faudrait essayer de voir et que cela m'apparaît comme étant une tâche de notre époque, justement. Un certain mariage entre cette démarche visant la rationalité, la compréhension par la voie de ce que nous nommons la science, elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, je crois qu'il y a des aspects positifs qu'il faut essayer d'utiliser, et puis essayer de marier donc cet apport positif que nous trouvons dans la tradition occidentale développée plus qu'ailleurs, quoique cela a été développé aussi dans notre tradition, en particulier en islam, avec la tradition religieuse qui s'est exprimée beaucoup plus sur le mode de l'adhésion directe, telle que nous la trouvons dans l'expérience de la sagesse ancienne, dans le Proche-Orient par exemple, de l'adhésion directe de l'homme à ce qui lui est offert, soit par l'expérience religieuse, soit par la révélation, etc. Alors, il y a là un travail qui me semble être tout à fait essentiel de nos jours, mais qui, là aussi, commence à peine. Je le vois à peine commencer. Je peux vous donner un exemple de cela pour préciser exactement ce que je veux dire. Il est paru récemment un ouvrage sur la révélation, qui est un recueil d'actes d'un colloque qui a eu lieu à l'Université de Bruxelles. Et dans cet ouvrage, il est question de la révélation, évidemment, judéo-chrétienne, dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne. Et les organisateurs de ce colloque n'ont même pas eu l'idée d'inviter un représentant de l'islam pour parler aussi de la révélation dans la tradition islamique. C'est vous dire à quel point cette idée d'exclusion dont j'ai parlé au départ est extrêmement profonde, encore maintenant. Or, quel est le problème? Le problème, c'est d'accéder aujourd'hui, avec les moyens que nous avons et avec surtout cette mentalité scientifique qui est la nôtre et que nous ne pouvons pas évacuer, ça n'est pas possible. Il faut bien se mouvoir dans ce climat de rationalité que nous avons créé et qui nous paraît si essentiel pour notre survie maintenant. Il s'agit de poser le problème de la révélation sur un terrain qui n'est plus du tout le terrain théologique dogmatique traditionnel, qui était un terrain d'exclusion, par définition, des autres formes de la révélation que la sienne propre, que celle qui est reçue dans la communauté. Autrement dit, vous voyez à quel point, malgré cette rationalité de l'Occident qui nous paraît être extrêmement évoluée, extrêmement avancée, lorsque nous essayons de l'appliquer au domaine de la connaissance religieuse, de l'accès à l'expérience religieuse, à ce que la tradition religieuse peut nous apporter, cette rationalité demeure extrêmement limitée et même elle fonctionne exactement comme fonctionnait le type de raison qui était à la base de la réflexion théologique dogmatique, qui était encore une fois une stratégie d'exclusion des autres aspects et des autres apports de la religion. Il n'était pas question au Moyen-Âge, par exemple, de s'intéresser, comme vous venez de le faire, par exemple, aux religions extrêmes orientales. C'était les religions absolument exclues de l'horizon de l'expression. Il y a là un problème qui me semble tout à fait essentiel aujourd'hui dans notre démarche, encore une fois, non pas pour récupérer, non pas pour réinsuffler à toute force une tradition ou des valeurs religieuses qui nous viennent d'ailleurs, je n'aime pas du tout cette attitude, mais pour essayer de conjoindre ces deux approches qui, malheureusement, tendent à être encore toujours très séparées avec l'Orient d'un côté qui est voué à je ne sais quelle spiritualité ou à je ne sais quel rêve, et puis l'Occident de l'autre qui, lui, a une marche assurée sur une terre ferme qu'il domine, etc.
Oui, je crois...
Je caricature, mais
non,
c'est bien ainsi que se passent les choses.
Pierre-Emmanuel.
Et je crois que vous avez raison de signaler cette prétention ou cet orgueil intellectuel de l'Occident qui croit, malgré l'expérience contraire et l'évidence contraire, se situer en terre ferme, alors que ces mondes qu'il ignore d'ailleurs le plus souvent lui semblent confus et chaotiques. Je ne parle pas maintenant de ce qui nous est propre à vous et à moi, c'est-à-dire une certaine conception de la transcendance divine, du Dieu unique, de l'homme dans son unité et orienté vers le salut. Je voudrais tout de même encore un peu que nous nous situions en face des autres avec une certaine humilité. Vous et moi, enfin, vous musulmans, moi chrétien, et s'il y avait un juif parmi nous, il dirait sans doute la même chose, nous commençons à comprendre que nous sommes de la même race spirituelle.
Nous commençons.
Mais le fait que nous commençons peut avoir des aspects très positifs et nous amener à un approfondissement alors de type théologique et spirituel que vous, pour votre part, vous avez admirablement amorcé. Il suffit de lire votre interprétation du Coran pour s'en rendre compte. Donc ça peut nous amener à cet approfondissement, mais ça peut aussi nous éloigner d'une certaine façon encore, pour un temps j'espère, de ce qui se passe autour de nous et qui est très généralement indéchiffrable. C'est indéchiffrable parce que, sauf quand il s'agit de vocations particulières, hein, j'entends bien, c'est-à-dire de gens qui se situent en plein terroir spirituel d'une autre réalité et qui se naturalisent autant que faire se peut à cette autre réalité, sans quitter la leur. Et c'est le cas, enfin, c'était le cas de Massignon, c'est le cas de Corbin, enfin, c'est le cas de grands noms comme ça de l'expérience occidentale. C'est sans doute aussi le cas de certains noms de l'expérience orientale et de l'islam. Pour nous, ce monde, eh bien, c'est un monde folklorique. Ou bien alors, c'est un monde de trucs. Un monde folklorique parce que toute la religiosité plus ou moins panthéiste de l'Inde, par exemple, séduit certains littérateurs ou certains peintres ou cause une sorte de frisson, de curiosité à certaines personnes qui cherchent l'exotisme spirituel. Donc c'est ou bien cela, cette espèce de folklore, ou alors quelque chose que l'on n'arrive jamais à pénétrer. Il y a maintenant, enfin, 40 ans, que j'essaye de comprendre cette masse d'informations, et Dieu sait qu'elle est importante, qui nous parle plus encore de l'Inde que du monde bouddhiste. Car il me semble que le bouddhisme a une rationalité qui lui est propre et qui est finalement assez proche d'une certaine pensée philosophique athée qui court le 19e siècle occidental. Mais il y a donc 40 ans que j'essaye de déchiffrer cette masse d'informations, cette masse de symboles, cette masse d'affects, cette expérience multiforme, indéfiniment renouvelée, indéfiniment multipliée, à travers des êtres. Et c'est ce qui me frappe le plus, c'est cette extraordinaire diversité de l'expérience spirituelle de l'Inde, et je n'arrive à rien. Alors pourquoi n'arrivais-je à rien? Probablement parce que on n'arrive pas comme ça si facilement à pénétrer la profondeur de l'expérience spirituelle humaine de tout un univers.
Mohamed Harkoun.
Oui, je crois qu'on n'y arrive pas en effet, parce que ce qui caractérise l'expérience religieuse, c'est que c'est à la fois une connaissance et une expérience. C'est exactement la définition de la sagesse, autant biblique. Dans le livre des Proverbes, par exemple, dans la Bible, toute l'expression de la sagesse, c'est exactement une expérience vécue par des hommes qui s'exprime sous forme de ces proverbes. Et alors, si on utilise uniquement la voix, si vous voulez, de la lecture, de la compréhension, on ne peut pas y arriver, ça n'est pas possible. Parce que ce qui fait, à mes yeux, la supériorité de l'expérience religieuse, c'est qu'elle est indissociablement vie et connaissance. La vie s'exprimant dans la connaissance, et la connaissance soutenant la vie. Or, ce qui caractérise notre pratique aujourd'hui, pas seulement en Occident, mais on peut dire dans le monde, puisque comme je l'ai dit, l'expérience occidentale se caractérise de nos jours par le fait qu'elle est exportée partout dans le monde. Ce qui caractérise notre expérience actuelle dans le monde, c'est l'hypertrophie de la connaissance théorique, qui est extrêmement éloignée de la vie. De la vie, et quand je dis la vie, ce sont les rapports des hommes dans la société, qui se connaissent, qui se fréquentent, etc. Dans cette expérience vécue au jour le jour, il y a une connaissance qui sans cesse soutient cette conduite quotidienne de l'homme dans la société. Cette chose-là disparaît parce que nous étudions tout seuls, nous faisons notre travail tout seul, dans l'abstraction. Et cette abstraction a une racine qui a été exprimée d'ailleurs très nettement par la philosophie occidentale. Toute la philosophie de la conscience exprime cette séparation vis-à-vis de la sagesse qui caractérisait l'expérience religieuse, parce que la conscience est tournée vers elle-même, elle s'analyse elle-même, et elle essaye de se comprendre elle-même avec ses propres forces, et dans l'abstraction, et par un effort constamment abstractif. Il y a là, par conséquent, quelque chose de très profond et qui va assez loin dans l'expérience occidentale. Et c'est en ce sens que l'Occident représente effectivement une référence culturelle qui est assez différenciée de ce que peut représenter l'autre référence culturelle que peut représenter l'Orient. Mais alors, dans cette démarche que nous sommes en train de décrire, et non pas dans cette opposition, encore une fois, très superficielle qui a caractérisé jusqu'à présent l'opposition Orient-Occident à la manière de Kipling qui disait que l'Orient c'est l'Orient et l'Occident c'est l'Occident, ils ne se rencontreront jamais. Cette expression est l'expression de l'Occident du 19e siècle qui a découvert un Orient qui a été dans une situation extrêmement lamentable du point de vue historique, du point de vue social, etc. Et qui, au contraire, lui, l'Occident, était en plein épanouissement, en pleine expansion. Et à partir de là, c'est fixé dans l'esprit occidental, encore une fois, cette idée d'un Orient et d'un Occident irrémédiablement séparés. Alors, il s'agit là d'un travail de remembrement qu'il faudrait opérer par-delà cette philosophie de la conscience qui s'est développée depuis Descartes jusqu'à Husserl, au moins. Et par-delà, aussi, une certaine tradition sclérosée, aussi, il faut le dire, en Orient, dans les traditions orientales, parce qu'il a manqué à cette tradition à partir d'un certain moment dans leur évolution historique, tout de même, cette rationalité indispensable à la compréhension tout de même de la condition humaine, rationalité que nous trouvons dans l'expérience de la sagesse.
Oui. Cette rationalité, vous y tenez beaucoup.
J'y tiens parce que je regarde les choses à partir de mon expérience dans les sociétés musulmanes. Oui. Et je constate que, précisément, c'est une dimension qui a été perdue. Elle a existé très fortement en islam. Vous savez qu'on répète constamment, en Occident par exemple, un des lieux communs très courants, c'est que l'islam n'a jamais connu la laïcité, n'a jamais connu la séparation du spirituel et du temporel, etc. Ce sont des lieux communs qui courent en Occident. Ça forme cette imagerie occidentale sur l'Orient. Eh bien, historiquement, tout ceci ne correspond pas à la réalité. Il y a eu une expérience très, très forte, très avancée de la rationalité en islam. Il suffit de citer le nom d'Averroès, le philosophe Averroès, qui a été un grand philosophe en Espagne musulmane et au Maroc, au XIIe siècle, qui a exercé une très, très grande influence, justement, sur le développement du rationalisme en Occident, à partir du XIIIe siècle. On peut même dire que c'est le point de départ de cette montée en flèche de la rationalité en Occident. Cependant, il y a eu une évolution historique qui, à partir du XIIe siècle, a déterminé une récession, si vous voulez, de cette attention portée à la rationalité en islam. Et je suis extrêmement sensible, par conséquent, à cette chute, car il y a chute qui a provoqué, justement, cette dénivellation sur tous les secteurs de la vie des sociétés musulmanes, dénivellation qui s'est traduite par l'expérience coloniale, par tout ce que nous avons vécu depuis le XIXe siècle, et qui a entraîné, cette page d'histoire a entraîné un éloignement supplémentaire de l'Occident vis-à-vis de ses sources religieuses.
Vous avez l'impression que cet homme occidental, disons de la fin du XXe siècle, avez-vous l'impression qu'il est encore rationnel
actuellement?
Oui. Et avez-vous l'impression que c'est encore une personne?
Il y a beaucoup d'irrationalité qui se développe de plus en plus, à mon avis.
Mais je voudrais qu'on le place, cet homme occidental, non pas au niveau de l'intelligentsia, là où généralement il s'exprime et se cherche, ou au contraire se détourne lui-même, s'éloigne de lui-même. Je voudrais qu'on le place dans l'expérience propre de la plupart des gens, n'est-ce pas? Il y a eu... Il est incontestable qu'il y avait un christianisme traditionnel en France jusqu'à ces 30 dernières années. En particulier, surtout, un catholicisme traditionnel, à forte assiette sociologique, bien sûr, avec une vieille tradition de paroisse, mais très, très isolée du reste du monde, s'intéressant très peu, au fond, à ce dont nous parlons aujourd'hui, pour lequel l'islam était certainement tout aussi éloigné que la planète Mars. Bon, mais ce catholicisme existait, il avait sa spiritualité, peut-être anémiée, peut-être encore très forte, je ne sais pas. Après tout, nous nous racontons a posteriori certaines choses sur l'évolution de nos sociétés qui ne sont peut-être pas aussi justes qu'on le croit théoriquement. Il était là, et brusquement, il n'y a plus rien. Alors ça, je ne sais pas du tout comment nous allons, même avec notre intelligence de l'évolution historique, avec notre conception des remodellements de l'histoire, avec l'espérance que nous pouvons avoir d'un surgissement nouveau de la spiritualité, par exemple, ou de l'humanisme, je ne sais pas du tout comment nous allons finir ce siècle de ce point de vue. Cet individu, il est aussi peu individu que possible. Cet être, il est un non-être. Quant à la religion, bien, la religion lui paraît quelque chose de tel, de si fou. Ça lui paraît rien du tout. Ça lui paraît pas éloigné ou pas éloigné. Ça n'est pas. Non seulement ça n'est pas, mais s'il avait quelque chose à en dire, ce serait la dérision. Alors nous autres, avec notre conception, enfin beaucoup plus passionnée et avec notre sens de l'exigence spirituelle, n'est-ce pas? Nous sommes en face de gens qui se rient de nous, et pour lesquels, au fond, ce que nous disons ici, on ne peut même pas dire de la superstition, c'est tout juste s'ils ne le traiteraient pas comme une forme d'imbécilité.
Non, j'espère tout de même que nous n'avons pas dit trop d'imbécilité dans ce que
non,
nous venons de dire.
Mais je crois que nous sommes en face d'une, nous sommes en face d'une certaine conception de l'homme, tout à fait nouvelle, et dont j'aimerais que l'on puisse l'analyser plus avant, parce qu'elle me paraît à la fois contradictoire, évidemment, avec l'idée que nous avions et que nous avons toujours de ce qu'est l'homme au sens spirituel et unique, qui est l'homme de nos religions, et me paraît aussi contradictoire et antithétique de cette vision très complexe, alors, d'une identité cosmique courant à travers un nombre indéfini de vies successives afin d'éliminer progressivement le fruit de l'action. Il y avait dans cette vision spirituelle du monde quelque chose de très grand et quelque chose qui appelle à la sensibilité religieuse, peut-être en complément de l'idée que nous nous faisons de la durée humaine. Et il y avait là aussi une idée cosmique de l'expérience que nous n'avons pas, car nous sommes des humanistes et nous avons placé l'homme au sommet de la création, et donc nous avons renforcé les valeurs intellectuelles et les prestiges de la conscience, en particulier de la conscience rationnelle, alors que ça n'était pas du tout le cas, et ça n'est toujours pas le cas, dans ces religions qui sont aussi menacées, me semble-t-il, que les nôtres, peut-être sous d'autres formes.
Ah, sûrement, oui.
Est-ce qu'il y a moyen de les, comment dirais-je, d'aller un petit bout de chemin avec elles pour savoir ce que veut dire, en particulier sur le plan symbolique, puisque vous en parliez, l'expérience et l'intuition qu'elles ont de quoi ? De la réalité suprême, enfin, j'arrive difficilement à nommer souvent.
Oui, c'est bien pourquoi, justement, il est très difficile d'insérer ce discours religieux dans notre actualité, parce que lorsqu'on pousse les choses au point où vous les avez conduites, là, justement, il devient extrêmement difficile de dire à quoi réfère la symbolique religieuse. Et on reste évidemment très désemparé devant les interrogations de ceux qui aujourd'hui utilisent uniquement la démarche scientifique pour parler de la religion et pour réduire la religion à ce que les sociologues appellent un système de sécurité qui permet à l'homme de traverser sa vie d'une façon plus ou moins sûre, sans évidemment ouvrir aucun au-delà à cette vie que garantit ce système de sécurité qu'est la religion aux yeux des sociologues actuels. Alors, ce que vous dites là au sujet de l'impossibilité d'insérer aujourd'hui une parole religieuse, je le partage totalement dans mon enseignement et dans mon expérience, et je me demande aujourd'hui ce que peuvent donner effectivement ces contacts que nous voyons se multiplier malgré tout entre les expériences qui se déroulent en Occident et les expériences que les nations du tiers-monde nouvellement nées essayent de faire valoir avec beaucoup de difficultés. Mais elles essayent de le faire valoir, comme nous le savons, en réclamant paradoxalement un nouvel ordre économique mondial, avant de réclamer un nouvel ordre culturel mondial, je n'ose pas l'appeler spirituel, un nouvel ordre culturel mondial, parce que, en tout cas, il y a là deux perspectives, à mon avis, qu'il faudrait au moins conjoindre. Car la recherche d'un nouvel ordre économique est tout à fait essentielle. Je suis bien placé pour apercevoir l'importance de cette demande. Mais j'aperçois aussi l'importance de cette autre demande, qui est la réclamation d'un nouvel ordre culturel mondial. Je veux dire par là qu'il y a, c'est un mot galvaudé, je m'excuse de l'employer, mais c'est un mot très fort en même temps, des révolutions culturelles qui doivent s'accomplir à l'intérieur de ce que nous appelons les traditions nationales, qui se sont substituées et qui ont pris la suite des traditions communautaires religieuses. Il y a là, vous voyez, à mon avis, une autre perspective qui est tout à fait actuelle et qui nous propose des tâches immenses et actuelles et des tâches positives.
personnellement, je conclurai, si vous voulez, je crois que c'est le moment de conclure, je conclurai sur cet appel à un travail qui soit orienté à la fois vers ce nouvel ordre économique mondial, parce qu'il y a toutes sortes de situations absolument intolérables qui maintiennent justement beaucoup d'impossibilité d'accès à cette image de l'homme ou à cette conception de l'homme que nous revendiquons, et pour des raisons économiques et pour des raisons d'ordre économique mondial. Mais pour soutenir cet ordre économique mondial qui est réclamé par tous les peuples et surtout les plus démunis d'entre eux, il faut aussi un nouvel ordre culturel mondial qui implique une révision radicale des différentes traditions de pensée et aussi des pratiques culturelles dans les frontières nationales, même évidemment les frontières nationales de l'Occident, et je dirais même surtout de l'Occident, dans la mesure où l'Occident conserve, à n'en pas douter, une force de frappe à l'échelle mondiale, cette force de frappe qui fait que ces constructions culturelles dans ces cadres nationaux limités se trouvent exportées arbitrairement vers d'autres peuples, ce qui cause toutes sortes de déséquilibres, toutes sortes de ravages, et ce qui éloigne de ce travail, encore une fois, que nous évoquons, de retour vers l'homme ou de construction d'un autre homme.
Pierre-Emmanuel.
Je voudrais justement aussi aller dans le sens de votre conclusion, mais je crois que nous devons pratiquer à l'égard des autres traditions la vertu de révérence. Révérer une autre tradition, c'est d'abord essayer de la comprendre, de l'aimer, d'en sentir la spécificité et la profondeur. Il y a là un effort incommensurable à la simple connaissance intellectuelle. Ceux qui ont donné leur temps, leur esprit et souvent leur vie à une autre tradition que la nôtre sont pour nous de très grands témoins. Et il faut d'abord que nous le sentions et que nous les aimions et les vénérions, que nous ayons pour eux une reconnaissance de l'esprit de ce fait. Ensuite, et c'est là, enfin c'est une question que je me suis souvent posée, les comprendre aussi intimement que possible ne signifie pas nécessairement être eux. Je crois que nous avons trop tendance, dans la mesure même où nous voulons élargir notre champ de compréhension et où nous avons besoin de la réalité d'autrui, nous avons trop tendance à nous l'approprier. Mais je crois que c'est une erreur. Le champ de la différence est important, et je dis le champ de la différence dans le sens de l'espace et aussi dans le sens de la musique, n'est-ce pas ? Peut-être que la musique et l'espace, c'est après tout la même chose, n'est-ce pas ? Mais chanter la différence, c'est-à-dire approfondir dans la compréhension qu'on a de l'autre toute la richesse d'une thématique qui est souvent un dialogue, enfin, qui ne peut être qu'en dialogue, et peut-être en dialogue à plusieurs fois, ça me semble très beau. Et je n'ai jamais essayé de me convertir à aucune autre religion qu'à la mienne. Mais en connaissant les autres religions, il me semble que de ce fait, et tout naturellement, j'approfondis la mienne.
Les religions orientales et nous, Mohamed Harkoun et Pierre-Emmanuel dialoguent maintenant avec le public du Studio 105. Monsieur.
Pierre-Emmanuel, votre interlocuteur vous a demandé quel pouvait être le rôle du poète dans le monde de la rationalité. Voudriez-vous satisfaire notre curiosité ?
Je suis toujours embarrassé par cette question. Je n'y ai jamais trouvé de réponse satisfaisante. Je suppose que la fonction poétique, c'est d'abord une certaine attitude devant ce qui n'est pas immédiatement visible ou saisissable. Le visible, le saisissable, l'explicable, l'arrangeable, tout cela, nous savons ce que c'est. Cela fait partie de notre expérience objective. Et puis il y a autre chose, qui est en plus ou en moins expérience, non pas tellement connaissance, expérience de ce qui ne peut pas être dit, et qui tout de même arrive à se dire. Alors, cela peut être un geste, un sourire, cela peut être une chanson, cela peut être une découverte scientifique, pourquoi pas. Cela peut être, et c'est toujours, un plus par rapport au connu. Bien entendu, ce plus par rapport au connu, parfois, s'épuise. C'est-à-dire qu'il devient connu à son tour et il entre dans le grand champ objectif de la conscience. Mais il peut très bien être tout simplement de l'inconnaissable. De l'inconnaissable qui se figure dans une espèce d'approximation que l'homme peut avoir d'une réalité qui lui échappe toujours. Alors là, bien sûr, je parle selon mon expérience. Ce qui fait pour moi la richesse de la réalité, ça n'est pas du tout qu'on puisse la saisir, parce que je suis toujours sûr qu'on en saisira suffisamment pour occuper toute une vie d'homme. Mais ce qui fait la richesse inexhaustible de la réalité, c'est qu'elle est insaisissable. Et c'est en cela que je l'appelle Dieu. Vous pouvez l'appeler autrement, mais vous sentez en tout cas ce caractère non fini, qui n'est pas non plus indéfini, qui est vraiment infini ou transfini. Et je pense que là, nous reconnaissons une expérience que j'appelle religieuse, pour ma part, et qui est en deçà de toute dénomination, que je peux trouver dans certains textes védiques, comme je peux la trouver dans des textes du Zen, ou comme je peux la trouver dans certaines formulations de scientifiques modernes.
Bien, passons à une autre question.
Vous avez parlé de religion, c'était le sujet, mais vous avez beaucoup parlé de culture. Monsieur Harkoun a par exemple évoqué un nouvel ordre culturel mondial, et Dieu sait que ça serait bien utile. Mais on voit bien ce nouvel ordre culturel mondial, ça sera le respect des autres cultures, ça sera le pluralisme, etc. Mais est-ce qu'on peut imaginer un nouvel ordre religieux mondial qui serait tel que les religions respectent les autres, c'est-à-dire abandonnent leur idée essentielle, par exemple l'idée de l'évangile, aller et évangéliser partout, et l'islam, même chose. Alors comment faire pour nouer un peu ces deux choses, ce besoin que nous avons d'une culture multiforme, et ce besoin qu'ont les religieux d'avoir la religion à eux.
Professeur Harkoun.
Oui, je suis tout à fait sensible à l'importance de cette question, et je répondrai que si nous avons constamment, et personnellement, moi-même je l'ai fait, et je sais que je le fais très souvent, si je glisse de la religion à la culture et de la culture à la religion, c'est parce que ce que nous nommons religion s'exprime, bien entendu, par le culte, c'est très important, mais elle s'exprime aussi par la culture, par toutes les productions culturelles de l'homme dans la société. Et un des problèmes que nous ne pouvons plus négliger aujourd'hui, c'est justement de savoir si la religion est dans la société, comme nous le disent les sociologues, ou si la religion est au-dessus de la société. Dans la conception traditionnelle, la religion vient de Dieu. Elle vient du ciel, selon une expression, évidemment, une conception symbolique du ciel. Elle vient d'en haut. Les musulmans ont exactement le mot de descente. La révélation est une descente. La parole de Dieu est une descente. Par conséquent, vous voyez qu'il y a là deux conceptions extrêmement opposées, si je puis dire, opposées en ce sens qu'elles font difficulté. La conception, si vous voulez, qui veut que l'homme ait ce regard vertical à la fois vers lui-même, pour se concevoir et vivre au contact de la parole qui lui est proposée, de Dieu qui est descendu sur lui. Et puis, ce que notre culture actuelle est en train de nous dire, ce à quoi notre culture actuelle est en train de nous convertir, à savoir que ce langage séculaire et millénaire, qui est le langage religieux et le langage des poètes, Il est dans la société, il est produit dans la société, et il faut par conséquent regarder ce qui se passe dans la société pour essayer d'en avoir une compréhension adéquate et exhaustive. C'est un problème, moi je le pose comme problème, je ne le tranche pas. Et vous voyez que de toute façon, on est obligé de passer de l'un à l'autre.
Pierre-Emmanuel, votre réponse à cette question?
Je crois que je l'ai donnée tout à l'heure en indiquant que c'est une question d'attitude juste. Nous sommes maintenant dans un monde ouvert, ou qui devrait l'être, où par conséquent on peut considérer qu'un certain nombre des situations historiques antérieures n'ont plus de raison d'être considérées comme des obstacles. Et si ce monde est ouvert, disons potentiellement, nous devrions contribuer à l'ouvrir. Alors comment? Eh bien, je crois que c'est en essayant de comprendre et d'aimer.
Je voudrais ajouter un mot, à savoir que la culture, l'effort de culture, corrige un certain nombre d'excès qui proviennent de mauvaises compréhensions de la religion que nous avons vécues au cours d'une très longue histoire. Et là, il y a un effort de culture essentiellement positif qu'il reste à faire pour accéder, encore une fois, à une expression émancipatrice ou à une conception ou à une pratique émancipatrice de la religion et non pas à cette pratique aliénante de la religion qui tout de même a existé dans toutes les religions. Il y a donc là un effort de culture positif qu'il faut faire. Et c'est dans ce sens, très fort, que je réclame un nouvel ordre culturel mondial.
Il y a une question sur le micro central, Monsieur Antoine.
Oui, il y a mille questions qui viennent et enfin, bon, faut choisir alors de deux peut-être. Vous avez évoqué Averroès, il y a quand même un grand français catholique qui a fait un grand ouvrage sur Averroès. Il est vrai qu'il l'a fait au moment même où il quittait, où il venait de quitter le giron de l'Église. C'est Renan. Bon, et alors ce qui me frappe toujours, je ne dois pas être le seul, c'est l'espèce d'abîme d'oubli dans lequel cette thèse monumentale est tombée. Bon, alors problème. Alors, autre problème, probablement plus délicat. Nous sommes professeurs à la même université, tous les deux, ça tombe bien. Quant un peu au professeur que je m'adresse, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une espèce d'hypertrophie de l'intellectualisme qui régnait dans notre monde occidental, peut-être parce qu'il n'était pas assez religieux, ou parce que sa religion était déformée, etc. Alors, tout à coup, je me suis dit, mais bon Dieu! Et Pierre-Emmanuel le sait bien, et c'est un de ses thèmes profondément favoris. Notre école est ennuyeuse, et elle l'est présentement, pas la vôtre, mais enfin en général. Et le reproche qu'on peut lui faire, c'est d'être hyper intellectualiste, et de ne pas se nourrir assez d'affectivité, de poésie. Est-ce que par hasard, vraiment je pose la question en toute liberté d'esprit, est-ce que par hasard, ce n'est pas à sa laïcité, pour une part, qu'elle doit cela? Voilà une question tout à coup qui m'a traversé grâce à vous.
Qui commence? Professeur Arcon.
Moi, j'ai une position très nette à l'égard de la laïcité. J'essaye de la vivre en tant que valeur positive. J'essaye de la vivre en tant que valeur positive, c'est-à-dire que c'est une conquête. Mais une conquête à reconquérir, si je puis dire, comme toutes les grandes choses, comme toutes les grandes valeurs. Ça n'est pas une position absolument décisive qui sépare les choses en noir et en blanc, ce qui devient le laïcisme opposé au cléricalisme, ce qui devient deux ismes que je rejette violemment. Alors que la laïcité, encore une fois, est pour moi une conquête positive, et c'est en ce sens que tout à l'heure je disais à Pierre-Emmanuel que il y a justement un apport positif de l'expérience occidentale dont les religions orientales pourraient profiter. Et une attitude laïque, par exemple, dans un pays comme le Liban, qui est en train de vivre la tragédie que nous connaissons depuis un certain temps, cette attitude laïque est réclamée comme la solution aujourd'hui aux dissensions libanaises. Donc ils perçoivent sur le terrain et dans un moment particulièrement tragique, l'apport positif que pourrait être la laïcité. et je faisais allusion tout à l'heure au rationalisme en islam, au Xe siècle, il y avait des philosophes à Bagdad qui réclamaient une attitude rationaliste laïcisante pour mettre fin aux dissensions justement entre les différents groupes ethnoculturels, Dieu sait s'il y en avait, dans une ville cosmopolite comme Bagdad au Xe siècle, qui se battaient tout le temps dans les rues pour les choses qui étaient qualifiées de religieuses et qui n'avaient rien de religieuse. Par conséquent, vous voyez que la laïcité, on pourrait donner beaucoup d'autres exemples, est une valeur à mes yeux positive, mais qu'il faut sans cesse reconquérir.
Pierre-Emmanuel ?
Je ne suis jamais posé la question de la laïcité, parce que pour moi, elle va de soi. Je me pose parfois la question de la cléricature, et pas seulement de la cléricature des prêtres, bien sûr, de la cléricature des professeurs ou de la cléricature des idéologues, mais je trouve que la laïcité est un des biens les plus précieux de l'intelligence moderne. Et si j'avais à répondre à notre ami Antoine, je dirais que ce n'est pas la laïcité qui a stérilisé l'intelligence pédagogique. J'ai une expérience de l'école laïque qui était très riche de sens. Je lui garde une très grande reconnaissance personnelle. Je crois que c'est simplement une orientation générale de l'esprit occidental à un moment donné. C'est une valorisation excessive d'une certaine rationalité, enfin, au détriment de l'imagination, de la sensibilité. En tant que poète, je suis très, très étonné de voir à quel point, je ne dis pas l'activité poétique, mais la compréhension de la poésie est anémiée dans ce pays. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ce serait presque pour moi un objet de scandale. Et je voudrais savoir si c'est particulier au monde français, à un certain type d'intelligence ou d'usage de l'intelligence en France, peut-être même l'usage de l'intelligence à l'école. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, puisque nous parlons de cela, mon cher ami. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de la poésie à l'école. Tout le monde fait de la poésie à l'école. Et on lit de moins en moins la poésie à l'âge adulte. Les poètes se lisent de moins en moins, mais il y a une espèce de, d'ensemble de mécanismes, de systèmes pédagogiques qui veut qu'entre l'âge de 12 ans et l'âge de 17 ans, les adolescents apprennent à faire des vers. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en quoi cela a-t-il affaire vraiment à la compréhension de la poésie, et même à la compréhension de l'être humain dans son ensemble. Si vous me donnez la réponse à cela et me dites, mais d'ici 20 ans, vous verrez les générations de poètes qui sont nés de cette refonte de la pédagogie, je vous en serai très reconnaissant.
Oh diable, quelle provocation. Pierre-Emmanuel, mais vous le savez très bien, vous êtes provocateur en ce moment. Que vous avez présidé une certaine commission, je sais bien qu'elle n'a pas été où vous vouliez la mener, hélas. Je répondrai simplement ceci. Si par heureuse hypothèse, ce qui se fait dans les classes maternelles, je ne récite pas là un compliment, il se trouve que je suis un grand-père maintenant, arrive très vite ces choses-là, et je vois une petite fille à l'école maternelle. Eh bien, je vous assure qu'on leur en fait dire des poésies les plus charmantes, constamment. Alors si notre école maternelle vient à exercer sa contagion dynamique sur les étapes suivantes de notre école, dans 20 ans, vous trouverez votre bonheur, Pierre-Emmanuel. Mais quel problème.
Merci, monsieur le recteur. Gisèle Halimi, je crois, voudrait poser une question.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'il ne peut pas y avoir de nouvel ordre culturel sans nouvelles valeurs ? Parce qu'il y a une grande usure, et qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles valeurs dans notre monde sans l'introduction à part entière des valeurs de moitié de l'humanité, qui sont les valeurs des femmes. Moi, j'ai toujours été frappée, pour peu que je connaisse les religions orientales et occidentales, en tout cas pour les monothéistes, de la place dérisoire, pour ne pas dire méprisable, qui est faite aux femmes. Qu'elles sortent de la côte d'Adam, qu'elles soient un moyen de reproduction dans la Genèse, qu'elles soient une des femmes parmi les femmes, dans le Coran. La femme n'a jamais eu, dans aucune religion, son statut d'être humain à part entière. Alors quand on parle de nouvelles cultures, on ne peut pas rapiécer. Il faut un changement radical. Vous aviez employé, je crois, monsieur, le terme de révolution culturelle. Je n'envisage pas dans nos sociétés, et je dirais même dans les sociétés orientales, enfin celles que nous connaissons, de révolution culturelle, donc un radicalisme à la source, sans des valeurs absolument nouvelles, qui n'ont pas encore leur cri, qui n'ont pas encore leur chant, qui n'ont pas encore leur expression, car même au plan de la forme, la création des femmes, elle est réduite au véhicule qui a été le véhicule depuis des siècles et même des millénaires, qui est le véhicule masculin qui est né au plan culturel de ces religions occidentales et orientales.
Professeur Harkoun.
Oui. Écoutez, il va de soi que la femme fait partie de cette révolution que nous demandons. Et il va de soi, dans mon esprit, qu'il ne s'agit pas du tout d'une récupération, comme je l'ai dit, des religions orientales par des moyens actuels modernes. Il s'agit d'une révision, d'une reprise critique de l'expérience religieuse telle qu'elle a été vécue jusqu'à présent, avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui et les expériences que nous avons faites au cours tout de même d'une histoire qui n'est pas uniquement négative. Personnellement, je n'éprouve jamais le besoin de dire l'homme et la femme. Quand je parle d'un ordre économique mondial, il va de soi que ce sont tous les humains que nous sommes qui doivent faire cet ordre et que toutes les expériences, encore une fois, positives dans les traditions respectives de l'Occident ou des autres pays doivent être intégrées, mais intégrées avec cette décision qui est une décision de l'esprit de reprendre sous forme critique, c'est-à-dire sous bénéfice d'inventaire, toutes les expériences que nous avons vécues. Et il va de soi, par conséquent, que ce que vous dites au sujet de l'intégration et d'une refonte radicale d'un certain nombre de croyances sur lesquelles nous avons vécu jusqu'à présent, il va de soi que cela sera intégré précisément dans cet ordre économique. Et je suis bien placé pour savoir que les femmes, par exemple, dans des pays que je connais très bien, ont besoin de la révolution que vous demandez. Et ce n'est sûrement pas moi qui m'opposerai à ce que vous faites.
Bien, une question qui serait sans doute la dernière, monsieur. Au cours de votre dialogue, vous avez parlé de la difficulté que vous aviez de comprendre certaines religions étrangères, asiatiques, et que pour cela, la rationalité ne suffisait pas, qu'il fallait ces expériences, enfin les expériences, les vivre. Alors est-ce que des personnes qui vivent des expériences, je dirais, religieuses différentes peuvent se comprendre les uns les autres? Est-ce que simplement ils doivent coexister les uns à côté des autres et s'entendre? Ou est-ce que il faudrait penser à quelque chose qui s'appellerait l'amour, je ne sais pas, qui pourrait être, disons, le moyen idéal de communication? Et est-ce que c'est vers cela que vous tendez? Parce que je n'ai pas cru bien le saisir.
Je crois que Pierre-Manuel a déjà répondu à cette question, mais enfin, s'il veut ajouter quelques mots.
Quand j'ai parlé de la difficulté qu'il y a pour moi à comprendre d'autres mondes que le mien, et en particulier les mondes de l'Asie profonde que nous avons évoqués, j'ai aussi dit que depuis 40 ans, je m'y employais. Ce qui veut dire que depuis 40 ans, cela me préoccupe et que cet attachement à un autre qui reste toujours mystérieux pour moi est une forme d'amour. Je dis bien qu'il reste mystérieux pour moi, c'est-à-dire qu'il est bien au-delà de toute explicitation rationnelle ou de toute connaissance que je pourrais avoir de sa pensée et de son attitude spirituelle profonde. Il y a simplement ceci, que nous sommes très loin, lui et moi, enfin, ce monde est le mien, nous sommes très loin l'un de l'autre, parce qu'il y a des millénaires d'expériences qui nous ont, je ne dirais pas séparés, car ils ne nous ont pas proprement séparés, ils nous ont peut-être moins séparés que nous n'avons été séparés de l'islam, mais il y a des millénaires d'expériences qui nous manquent aux uns et aux autres. Alors, que peut-on faire? Je suis sensible à ce mot d'amour que vous avez prononcé. C'est un mot que l'on manie avec difficulté dans la terminologie contemporaine, parce qu'il signifie un certain engagement à l'égard de l'autre, même quand on se sent différent, même quand il est fondamentalement étranger. Et on peut se demander d'ailleurs si l'amour, ce n'est pas justement cela, l'expérience profonde de l'étranger. Et si la véritable découverte que l'on fait de la réalité de l'amour, c'est le contraire de la découverte objective, on découvre l'autre dans sa profondeur comme l'étranger, mais vraiment avec une sorte d'émerveillement et de choc que jamais aucune expérience objective ne peut donner. Alors je pense que, je ne sais pas ce que pourrait dire Arkoun là-dessus, la faculté poétique précisément est de cet ordre-là. Elle est un en-deçà peut-être de la connaissance objective et un au-delà, elle est le moyen pour un être, avec ses infirmités et ses limites, de pressentir, si peu que ce soit, à la fois l'altérité fondamentale de l'autre et la richesse du don qu'il fait de cette altérité, n'est-ce pas ? Je veux dire par là que être autre, c'est une richesse que l'on reçoit. De l'autre, je reçois une richesse plus grande que je ne reçois du même. Et c'est dans la mesure où l'autre devient véritablement autre pour moi, qu'il se donne à moi et que je puis d'une certaine façon me donner à lui. Et ça, évidemment, c'est l'expérience poétique et aussi l'expérience religieuse, tout à fait différente de l'expérience objective que nous connaissons tous et qui, elle, est limitative, systématique et qui nous enferme dans le fini et dans le connu. L'autre nous libère du connu, n'est-ce pas ? Il nous précipite dans l'inconnu et l'amour, c'est être précipité dans l'inconnu.
Professeur Arkoun.
Oui, je partage tout à fait cette réponse, bien sûr, et j'ajouterais cependant que la culture, je reviens à la culture, c'est une déformation professionnelle sans doute, est une introduction indispensable pour s'élever jusqu'à ces sommets que nous évoque le poète. Je veux dire par là qu'il y a des obstacles à la communication qui sont dus à l'ignorance. L'homme est ennemi de ce qu'il ignore, aime répéter un proverbe arabe, il est peut-être international, mais je sais que les Arabes le disent très souvent. Et c'est un fait que nous sommes tout à fait impréparés et qu'il y a une ignorance réciproque des cultures et des civilisations qui est absolument fondamentale. Comment voulez-vous participer à une expérience surtout au point où elle est évoquée ici, par l'amour, etc., si vous ignorez les éléments fondamentaux, les éléments primaires d'une civilisation, d'une culture, d'une expérience religieuse. Or, comme je l'ai dit, les traditions religieuses exprimées par des systèmes théologiques ont fermé l'esprit à cette découverte de l'autre, à cette expérience de l'autre si enrichissante effectivement. Et le problème, justement, d'une nouvelle culture, d'une nouvelle pratique culturelle, c'est de sortir des carcans que nous traînons tous en nous, du fait que nous avons grandi dans des traditions culturelles qui sont très, très influencées par toute cette expression très théologique traditionnelle. Ça existe partout, en Occident, comme en Islam, comme chez les bouddhistes, partout. Il y a des aspects négatifs de l'expression religieuse. J'y insiste parce que j'en ai fait l'expérience vivante. Nous en avons tous fait l'expérience. Et voilà pourquoi j'insiste encore une fois sur la démarche culturelle en tant qu'introduction nécessaire à cette expérience qui doit évidemment monter, nous le souhaitons tous, pour ceux à qui cela est donné, jusqu'au sommet que vous décrivez.